Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce deuxième numéro mensuel de la chronique culture du département. La chronique culture du département, un rendez-vous coproduit entre le département de l'Eure et la radio Principe Actif pour vous parler des événements culturels et un petit peu plus qui se déroulent sur notre territoire de l'Eure. Pour m'accompagner durant cette émission, c'est Florence et Marie que nous retrouvons au micro. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Rentrons dans le vif du sujet et passons au sommaire où nous parlerons musique.
Oui, avec le festival Ça sonne à la porte qui aura lieu début juin.
Eh bien, nous en parlerons en long, en large et en travers, parce que nous parlerons également en lien avec ce festival d'intervention dans les collèges du département.
C'est ça, c'est un dispositif mené par le département qui s'appelle Culture au Collège. Et donc, dans ce cadre, il y a un festival choral qui sera restitué cette année à Ça sonne à la porte, mais on en parlera plus en détail.
Tout à fait, nous parlerons également plantes et puis arbres et arboretum, même plus largement.
Oui, à Harcourt, il y a le château qui est très connu, mais l'arboretum aussi mérite un peu plus d'attention.
Eh bien, nous y porterons justement attention. Et puis, dans notre déroulé d'émission, on m'a mis en plein milieu Mumo.
Ouais, le Mumo.
Comme ça, c'était pour le plaisir, Mumo.
Mumo, c'est un musée mobile qui en ce moment circule dans l'Eure et dont on va parler, qui contient les œuvres du Centre Pompidou. Ouais.
Et pour nous accompagner durant cette émission, c'est des invités triés sur le volet qui sont autour de nous à table.
Alors, il y a Jérémy Tomzik, pardon, le directeur du festival Ça sonne à la porte. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Il y a Karine Manouvrier qui travaille au département et qui s'occupe du festival choral justement et qui va nous en parler.
Bonjour.
Juste derrière, pour les prochains plateaux, nous avons également des spécialistes d'Harcourt.
Oui, il y a Julien Le Breton qui est le responsable d'unité des jardins historiques, donc qui fait Harcourt, Gisacum et la Maison Bonnard, qui nous parlera de l'arboretum après.
Et puis, pour parler de Mumo,
il y a Raphaël Jarry, qui est la chef de projet qui s'occupe du Mumo et qui nous en dira plus.
Très bien, et nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la toute première chronique.
Oui, le saviez-vous, quel est le point commun entre Yves Montand, Simone Signoret, Pablo Picasso et Marcel Pagnol? Eh bien, c'est qu'ils ont tous vécu dans l'Eure. En effet, Pablo Picasso a acheté près de Gisors à Bois-Geloux, une résidence qui est d'ailleurs que l'on peut visiter, qu'il a acheté en 1930, qui était un lieu d'inspiration. Marcel Pagnol, à la Croix-Saint-Leufroy, a acheté un moulin. Donc, peut-être là, beaucoup inspiré dans ses œuvres. Et Yves Montand et Simone Signoret ont vécu une belle histoire d'amour près d'Auteuil-Authillier.
Ben merci Florence pour ce petit « Le saviez-vous ?». Nous allons passer à la première pause musicale, mais elle est forcément choisie par Marie et même très inspirée. Qu'allons-nous écouter en premier morceau?
Donc c'est une programmation évidemment en lien avec le festival Ça sonne à la porte. Et le premier morceau qu'on écoute, c'est Maddy Street avec Wim Therapy. Le morceau s'appelle « Vilain ». Et on reparlera de Maddy Street quand on échangera avec Karine Manouvrier, puisque ils ont fait partie d'un autre dispositif du département qui s'appelle Cœur en patrimoine. Voilà, donc le morceau c'est Vilain.
You ran out of luck, you lost her.
Voilà, donc c'était Maddy Street et Wim Therapy avec le titre Vilain, qu'on retrouvera au festival Ça sonne à la porte. Donc bonjour Jérémy.
Bonjour.
Donc tu es là pour nous parler de la 17e édition de ton festival, dont tu es le directeur et le programmateur.
Tout à fait.
Donc les dates exactes sont le
8 et 9 juin.
D'accord, à partir de quelle heure ?
À partir de 15h les deux jours. En fait, c'est 15h, 2h du matin le samedi et 15h minuit le dimanche.
D'accord, et c'est toujours sur le stade de Grosseuvre ?
Ouais, c'est ça.
Et c'est toujours gratuit ?
C'est toujours gratuit.
Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de l'historique de ton festival ?
Alors, le festival a été créé en 2006. À l'époque, je travaillais à la communauté de communes La Porte Normande, qui était un regroupement de communes autour de Saint-André-de-l'Eure. On a monté une première édition en quelques mois en se disant s'il y a 300 festivaliers, c'est chouette. Et on a eu plus de 1000 festivaliers sur la première. Donc on s'est dit qu'il y avait vraiment un besoin sur le territoire. Et depuis, on n'a pas arrêté de monter. On a passé de 1000 à 1005, 2000, 4000, 5000, 6000. Là, on a fait 25 000 personnes l'année dernière, ce qui est énorme. On avait fait 20 000 l'année d'avant. Donc, le festival étant gratuit, c'est un peu compliqué de savoir à quoi on peut s'attendre. Mais ayant fait 20 000 et 25 les deux années précédentes, voilà, on pense qu'on va être à peu près dans les mêmes jauges. En tout cas, on a dimensionné le site pour ça. On sort de réunion préfecture, on y était hier, donc pour l'instant tout va bien. On a axé sur la sécurité, évidemment, renforcé un petit peu les agents de sécu. On a une programmation qui est toujours éclectique. Ça, c'est vraiment l'ADN depuis la première édition. Il y a à la fois du rock, de la pop, de la soul, il y a de l'électro, un petit peu de tout, quoi.
Avec quand même une dominante de découverte.
Alors oui, une dominante de découverte. Pourquoi ? Parce que déjà, on n'a pas forcément les budgets de faire venir des gros artistes qui passent à la télé. Et aussi parce que ça nous intéresse pas trop, en fait, de faire venir des artistes que tout le monde connaît et qui passent à la télé. Parce qu'ils peuvent aller les voir un petit peu partout. Ils jouent un peu sur tous les festivals. Nous, l'idée, c'est vraiment de se dire... Alors, ça part d'une contrainte budgétaire, mais je trouve ça plutôt chouette de se dire on va aller chercher les artistes avant qu'ils soient inaccessibles financièrement et permettre aux gens de Grosseuvre et alentour de découvrir en avant-première un petit peu ces artistes-là. Et voilà, il y a plein. On a fait This Is La Peste il y a deux ans. Six mois après, c'était plus du tout accessible, quoi. Là, on pourra pas du tout le refaire. On a fait Kokomo avant qu'ils fassent une tournée de festival de malades. Donc voilà, on essaye de voilà. Moi, j'estime que mon travail de programmateur, c'est ça. C'est vraiment de trouver le bon moment, en fait, pour faire venir les artistes, juste avant que ça explose, quoi, et qu'on puisse plus.
Ce qui fait aussi une réputation d'un festival quand on a découvert des artistes et qu'après ils ont tourné un petit peu partout, ça fait une réputation de festival. C'est peut-être ça aussi, les 20-25 000 visiteurs.
Peut-être.
Comment ça se passe pour venir à la recherche de ces artistes, de ces perles-là ?
Eh ben, écoute, ça c'est un peu mon boulot. Alors moi, je fais de la musique aussi, donc je joue dans pas mal de projets, donc je tourne pas mal et je me déplace beaucoup. Donc soit je vais jouer, soit je vais voir des concerts. Et clairement, il n'y a pas d'autre solution. En fait, faire de la programmation sur catalogue ou sur clip ou sur de l'audio, bah on peut très très vite avoir des mauvaises surprises le jour J. Ouais, il faut vraiment aller voir plein de concerts et essayer de voir un petit peu ce qui se démarque, qu'est-ce qui se passe, comment ça prend dans les autres salles, dans les autres festivals. On est en lien aussi avec l'association Amar, qui s'occupe un petit peu de tous les festivals de l'heure, de toutes les salles de musique actuelle de l'heure. Donc on discute pas mal entre nous pour voir s'il y a des projets qui sont en train d'émerger. Et effectivement, la programmation, elle est, on va dire, généralement de moitié de groupes vraiment locaux, ultra locaux ou régionaux, et l'autre moitié de groupes nationaux, voire internationaux. On a des groupes qui sont venus d'Angleterre. Voilà, cette année, on a Wonder 45 qui viennent de Londres. C'est inconnu en France. Par contre, là-bas, ils sont en train de passer sur la BBC partout. C'est que des tueurs qui ont joué avec Lana Del Rey, avec Tom Jones. Enfin, c'est inconnu en France pour l'instant, mais moi, je pense qu'au bout d'un moment, ça le sera.
Et justement, les artistes locaux, ce sont eux qui vous démarchent, pardon, ou c'est vous qui allez les chercher ?
C'est un mélange. C'est-à-dire que moi, j'attends pas trop qu'on me démarche. Alors, on me démarche beaucoup. Effectivement, le festival, ça va faire 19 ans qu'il existe. Donc, il a une petite réputation. Je reçois beaucoup, beaucoup de mails, de coups de téléphone. La plupart du temps, c'est moi qui vais chercher quand même les artistes. Mais ça arrive que ça soit dans l'autre sens. J'ai, par exemple, cette année, il y a un groupe qui s'appelle October Baby, où un des musiciens était déjà venu il y a quelques années avec un autre projet. Et il m'envoie un mail en me disant bah tiens, j'ai un nouveau projet, si ça te dit d'écouter, on serait super content de revenir. Je commence à rédiger mon mail en lui disant je suis en fin de prog, j'attends encore des retours, désolé. Mais en même temps, je clique parce que j'écoute tout. Voilà, j'écoute quand même tout. Donc je clique sur son lien et je commence à écouter en répondant au mail négativement. Et en fait, au fur et à mesure de l'écoute, je me dis attends, c'est vachement bien, c'est mortel. Et du coup, j'ai annulé, changé tous mes plans et je l'ai appelé tout de suite en disant mais c'est super, allez-y, venez quoi.
Et à partir de quand vous commencez votre programmation dans l'année ?
Alors, en vrai, j'ai déjà commencé celle de l'année prochaine.
Ok.
Voilà, ça s'arrête jamais. C'est-à-dire que je suis tout le temps en veille. Et je suis tout le temps en train de me dire, ah tiens, ça pourrait être pas mal. Je me note des trucs, j'ai plein de notes sur mon téléphone. Et il y a aussi plein de choses qui se font pas à cause des problèmes de calendrier. Ou là, cette année, j'ai eu plein de refus ou de choses qui pas possibles. Donc, je me suis noté ça dans un coin de la tête. Ou, par exemple, cette année, on fait Alta. Alta, c'est un projet de Vincile et Mr. Jimmy Deros. Vincile, qu'on connaît un peu avec C2C, Hocus Pocus, Mr. Jimmy Deros, que moi je connais aussi pas mal dans plein d'autres projets. Et eux, ça doit faire 5 ou 6 ans que j'essaie de les faire venir. Et à chaque fois, ça marche pas. À chaque fois, c'est trop compliqué, c'est trop cher, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, ils sont pas dispo. Et l'année dernière, on a vraiment failli le faire. Et ça s'est annulé au dernier moment. Et j'ai dit au booker, je dis, tu me le bloques tout de suite. Donc en fait, ils sont programmés depuis plus d'un an, quoi.
Ok.
La particularité de ce festival et de la programmation qui va avec, c'est aussi le côté familial. C'est-à-dire penser comment est-ce que ça va évoluer avec des plus jeunes aussi sur le site. C'est un festival qui draine quand même beaucoup d'enfants, enfin beaucoup d'enfants de famille en fait. Hein, quand je parle des enfants, je parle des familles.
C'est vraiment familial. Ça, c'est, je pense que c'est le mot.
Et du coup, il y a même une prog ouais, pour alors les jeunes publics.
C'est ce que j'allais dire. C'est pas forcément de notre faute. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte dès les premières éditions que c'était très familial. Et nous, on a trouvé ça super. Parce qu'on s'est dit, voilà, nous, on veut pas faire un festival que de jeunes, que de vieux ou que d'enfants. Et dès les premières éditions, il y avait autant de poussettes que de personnes âgées, que d'ados. Enfin, il y avait vraiment de tout. Donc, on s'est dit, on va vraiment essayer de construire une programmation. Moi, mon but, c'est que il y ait au moins un artiste qui plaise à une personne. C'est-à-dire que faut que les gens y viennent et qu'ils puissent s'y retrouver au moins une fois. Donc, c'est pour ça que je fais une programmation où il y a un petit peu de tout. Il y a du rock, il y a de la chanson, il y a l'électro, il y a du rap. Et alors mon test, c'est mes potes. C'est-à-dire que j'ai un gros noyau de potes qui écoutent des choses vraiment très différentes. Et je me dis toujours, est-ce que là dans ma prog, tous mes potes s'y retrouvent ? Est-ce qu'il y en a pas un qui va me dire, ah, ça manque de tel style, de tel truc ? Et je fais ça depuis 19 ans et jusque-là, ça marche toujours. Les gens n'aiment pas forcément tout. Ils viennent souvent pour un artiste ou deux, mais ils en découvrent plein d'autres. Pour le côté familial, on a un espace kids sur le site depuis une dizaine d'années où on accueille les enfants pendant une heure, ce qui permet que les parents soient un petit peu tranquilles sur le festival pendant une heure, que les enfants soient dans un mini-festival à l'intérieur du festival avec des petits jeux gonflables, des activités, des animations. Moi, ça fait plusieurs années que j'essaye de mettre en place un concert jeune public sur le festival. Et pareil, problème de calendrier, j'avais jamais réussi à le faire. Cette année, on y arrive et on ouvre le festival le samedi avec La Vie de Quartier, qui est un groupe local, jeune public, et qui a travaillé, on a piqué un petit peu l'idée des collèges, mais qui a travaillé avec l'école de Grosseuvre cette année. Il y a eu des animations, des interventions dans l'école de Grosseuvre, et il y a une classe entière qui va monter avec eux faire un morceau sur l'ouverture du samedi, et on ouvrira donc le dimanche, on va en reparler plus précisément après, mais avec la chorale des collèges.
Bah non, on va en parler maintenant, cette fameuse chorale des collèges.
T'as pas un jingle, une coupure pub, rien?
Non, une coupure pub surtout pas. Et un jingle, on peut le faire à la bouche, ouais, mais j'avais pas mieux.
Très bien.
Les collèges, justement, ça fait plusieurs années qu'on les voit en ouverture de ce festival. Plus ça va, plus il y en a. Hein.
Une seule année.
L'année dernière, c'est ouais, ça.
Il y avait combien
400 collégiens l'année dernière.
Je crois qu'on était déjà à 600.
Déjà à 600.
Ouais, on était déjà à 600.
Un peu plus, presque 600.
Voilà. C'est ça. Ils rentraient pas tous sur scène, d'ailleurs.
Non. Alors, on peut en mettre 500 sur scène maximum. Donc voilà, il y a un petit turnover d'élèves.
Vous avez dû adapter la logistique, j'imagine.
On a dû adapter la scène, surtout.
La scène,
c'est-à-dire
ouais.
que quand le département s'est rapproché de nous en nous disant le festival choral, on n'a plus trop de lieux, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer travailler ensemble ? On a réfléchi au truc, on nous s'est dit, ouais, carrément, c'est une super idée. Par contre, il y a 500 élèves, on s'est dit, oh là là. Donc là, on a rappelé nos prestataires de scène, qui nous ont dit, ah non, mais là, ça va pas du tout, 500 élèves, ça rentre pas sur votre scène, il faut prendre celle-là. On a dit, ah ouais, d'accord. Donc on a réussi à trouver une scène A, plus grosse. Donc c'est une scène qui fait 160 mètres carrés, qui nous permet d'accueillir maximum 500 élèves sur scène. Alors là, je viens d'apprendre qu'on est passé à 700 élèves. Donc bah, c'est pas grave, ça tourne, quoi. On a jamais plus de 500 en même temps.
Et ben d'ailleurs, pour en parler, on reçoit Karine Manouvrier, donc qui est chargée de projet culture au collège au département. Bonjour Karine.
Bonjour Marie.
Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est culture au collège ?
Alors, culture au collège, c'est un dispositif du département initié depuis 2021 qui vise à faire découvrir les arts et la culture pour les collégiens dans une logique en fait d'égalité des chances. C'est un programme vraiment pluridisciplinaire qui va de résidences littéraires à des créations plastiques et aussi des actions musicales comme celle avec le festival choral et le festival Ça sonne à la porte.
Donc, en quoi ça consiste le festival choral ?
Alors, le festival choral existait déjà, en fait, avant notre partenariat. Il est initié par le rectorat dans le cadre du plan choral. Et depuis 2021, le département et les festivals chorales du département de l'Eure, donc deux festivals chorales, nous avons noué un partenariat. Le département les mettait en relation avec des groupes de musique locaux ou régionaux. Ces groupes-là venaient créer dans les classes avec les élèves. Et ensuite, lors du concert, le groupe de musique actuelle était présent et chantait les chansons créées ainsi que des reprises avec les élèves concernés.
Ta touche des élèves de quelle classe ?
Alors, c'est vraiment des élèves de tout niveau qui sont inscrits en fait dans les classes chorales, c'est-à-dire des moments sur le temps du midi où les élèves s'inscrivent et peuvent faire des activités. Donc là, en l'occurrence, c'est de la chorale.
Est-ce que c'est vous au département qui choisissez les artistes qui vont participer à ce dispositif ?
Alors, c'était le cas jusqu'en 2023, puisque depuis 2023, nous sommes associés avec le festival Ça sonne à la porte que porte Jérémy. Et donc, Jérémy nous propose des artistes qui ont une appétence pédagogique, qui aiment intervenir avec les élèves et que lui va programmer dans le cadre du festival.
Et 700 élèves, ça fait combien de collèges qui sont concernés en gros dans tout le département ?
Ce sont 15 collèges maintenant qui sont concernés. Et depuis que nous travaillons voilà, avec Ça sonne à la porte notamment, nous avons de plus en plus de collèges intéressés.
Alors comment se déroule l'année, à partir du moment où l'artiste est choisi, qu'est-ce qui se passe avec les collégiens ? Ils font des ateliers, comment ça se déroule l'année avant la restitution ?
Oui, tout à fait. Une fois l'artiste choisi, l'artiste se rend dans les classes. Donc là, pour cette année, ce sont deux classes, donc deux collèges. Et donc, l'artiste, en fait, donc ma district cette année, vient accompagner donc là, ma district est venue accompagner de son guitariste et arrangeur Simon Centreau. Ils sont venus dans les deux collèges créer et composer les chansons avec les élèves. Ce qui était vraiment intéressant cette année, c'est que c'était vraiment très participatif. Dès le début, ils ont demandé aux élèves leur appétence, leur style musical, ce qu'ils écoutaient. Et ensuite, les élèves ont créé chacun, ils ont écrit chacun en fait un bout de la chanson. Ensuite, ils ont tout mis en commun. Et avec l'aide de Maddy et de Simon, ils ont ensemble créé la chanson finale qui sera présentée lors du festival Ça sonne à la porte.
Pour que tout le monde comprenne bien, il y a deux festivals, c'est-à-dire qu'il y en a un sur le territoire d'Évreux. Et un sur le territoire de Louviers, c'est
oui,
ça ?
Oui, tout à fait. Alors, dans le cas de Ça sonne à la porte, on accompagne le festival choral d'Évreux. Mais il existe aussi un autre festival que l'on accompagne, le festival choral de Louviers-Seineur, qui cette année a créé, en fait, avec trois classes chorales, trois chansons accompagnées de l'artiste Lottie. Donc Lottie, c'est une artiste havraise de R&B qui est venue accompagnée de sa musicienne. Ils ont créé ensemble dans les collèges donc Ferdinand Buisson à Louviers, Suzanne Ibinska à Louviers et Michel de Montaigne au Vaudreuil. Le concert aura lieu les 3 et 4 juin à la scène 5, puisque eux aussi ont des problématiques de jauge. Ils sont aussi de plus en plus nombreux. Donc ça nécessite 2 soirées de concert.
C'est un vrai succès, ce dispositif.
Tout à fait.
Alors, quelles sont les retombées pour le festival, Jérémy, de cette action ?
Eh ben, que dire ? sur le festival, ce qui est chouette, c'est que ça amène un public qui est pas forcément, qui connaît pas les festivals. Donc, ça amène là les familles, des enfants. Donc après, à nous de les garder un petit peu sur site. Mais c'est vrai que on a eu, c'était assez marrant l'année dernière, le dimanche après-midi, on a vu plein de gens arriver à l'ouverture et ils savaient pas du tout où ils mettaient les pieds, quoi. Donc c'était plutôt chouette. C'est super chouette pour les enfants aussi, parce que là, de jouer sur une scène aussi grosse devant autant de gens, quand on a entre 11 et 14 ans, ça doit être ça.
Tout à fait.
C'est je pense que l'expérience, elle est assez dingue, et ça leur montre ce que c'est qu'un festival, ça leur montre l'envers du décor, ce que c'est que de monter sur scène. Enfin, voilà, si ça peut créer des vocations, que ce soit de musiciens, d'artistes, de techniciens ou n'importe quoi de culturel, pour nous, c'est super, quoi.
J'imagine que pour une partie de ces jeunes, c'est même le premier festival auquel ils vont participer, enfin en tant que spectateur même, en fait, hein, parce que une fois qu'ils sont passés sur scène, généralement ils restent sur le site et peuvent aussi profiter des concerts. Pour certains, quand on a entre 11 et 14 ans, c'est parfois la première fois qu'on foule les pelouses d'un festival.
Oui, puis c'est un peu la classe, quoi. Moi, je pense moi, j'ai plein de parents d'élèves là qui viennent me voir en me disant mon fils ou ma fille vient de me dire que il joue Assassin cette année, ils en parlent à tout le monde. Enfin, il y a une grosse fierté, quoi.
Oui,
c'est ça, c'est vraiment une expérience hors du commun pour eux. C'est à la fois très impressionnant de se produire devant autant de personnes, leurs familles, mais aussi des inconnus. Donc c'est vraiment un saut extrêmement fort qu'ils font, une expérience dont ils se souviendront, je pense, longtemps.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, pardon, du dispositif Cœur en Patrimoine? Je me suis un peu mélangé les pinceaux en introduction en présentant le morceau, mais tout à l'heure on passera un morceau de Métro Verlaine qui passe aussi à Sassonne à la Porte cette année et qui eux ont collaboré avec le département sur le dispositif Cœur en Patrimoine.
C'est compliqué, tout ce mélange. Hein. C'est pareil, Lottie là qui est du coup sur le festival choral de Louviers était à Sassonne il y a 2 ans, je crois.
Il y a 2 ans, oui, tout à fait.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce dispositif ? C'est quoi Cœur en Patrimoine ?
Alors, Cœur en Patrimoine, c'est une classe d'un collège avec un artiste et un lieu patrimonial. Donc, Cœur en Patrimoine, c'est un projet qui est copiloté avec le Tangram, qui est scène de musique actuelle d'Evreux. Et donc, par exemple, Marie nous disait qu'elle allait diffuser un morceau de Métro Verlaine. Et Métro Verlaine, nous avons travaillé avec eux il y a 2 ans dans le cadre de Cœur en Patrimoine, avec une classe d'un collège d'Evreux. Et le clip a été tourné au théâtre Le Gendre. Donc, Maître Verlaine est venu dans la classe faire une reprise d'une de leurs chansons, arrangée d'une autre manière. Et ensemble, avec les élèves, ils ont été tourner un clip au Théâtre Le Gendre. Donc une expérience hors norme aussi.
Et c'est ce morceau qu'on écoute maintenant et qui s'appelle « New York City ». Voilà, donc c'était Metro Verlaine, New York City. Donc Metro Verlaine, on les présente plus, hein, c'est un groupe qui est des Bruissiens qui existe depuis près de 10 ans. Donc l'année dernière, ils ont fait cœur en patrimoine. Là, ils ont sorti leur troisième album en début d'année leur troisième album qui s'appelle Pop Sauvage, qui est sorti là en février. L'année dernière, c'était Funeral Party, pardon. Et ils joueront donc à Ça sonne à la porte samedi à 21h15. Écoute, Jérémy, on va vous libérer. Avant ça, est-ce que vous avez des petites nouveautés sur le festival ou un petit message à adresser à vos festivaliers?
Alors, les nouveautés de cette année, on met en place une tombola pour faire gagner une guitare Giro. Je suis presque arrivé en retard là, à l'émission de radio, parce que j'étais avec lui en train de finir de le regarder monter la guitare. Donc ça y est, les cordes sont mises. Elle est magnifique.
Un luthier
hébroïcien qui travaille dessus depuis quelques semaines maintenant. Et du coup, une guitare Giro d'une valeur de 2 300 € à gagner contre un ticket de tombola à 2 €. Il y a également dans les lots des tatouages, piercings chez Kill & Jekyll. Il y a des cours de guitare chez Cultura. Donc ça, c'est un peu une nouveauté. On n'a jamais fait de tombola. On s'est dit qu'on avait envie de faire gagner quelque chose, sachant que c'est les 10 ans de Giro cette année. On a également des casquettes Ça sonne à la porte cette année collector. Donc qui seront en vente sur le festival. Alors, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y en a que 200. Donc le premier arrivé, premier servi. Et puis à part ça, moi je vous donne rendez-vous samedi et dimanche, 2 scènes, 19 artistes, 18 plus 1, le 1 c'est Didier Deuze et Jean-Jean qui nous feront un after party le samedi soir, principe actif, qui seront là les 2 jours pour prendre du contenu en direct, que ce soit des interviews, peut-être des petits lives d'artistes. Et puis voilà, je vais clôturer sur le fait que il nous reste 15 jours, 2 heures, 4 minutes et 1 seconde.
Parfait. Ben merci beaucoup, Jérémy. Merci aussi à Karine et bon festival. On sera là.
Donc maintenant, nous allons aller du côté d'Harcourt, près de Brionne. Alors à Harcourt, il y a un château, mais il y a aussi un arboretum. Nous sommes avec Julien Le Breton, qui est responsable d'unité des jardins historiques, qui s'occupe du l'arboretum d'Harcourt, du siège des jardins de Gisacoum et des jardins de la maison Bonnard. Bonjour Julien.
Bonjour.
Donc d'abord, est-ce qu'on connaît un peu l'histoire de cet arboretum? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qu'il y a comme essence? D'où ça vient? Quelles sont les plus anciennes essences, etc.?
Donc oui, on connaît l'historique de cet arboretum qui a été fondé par Louis Gervais de Lamarre juste après la Révolution et qui avait pour but, dans un premier temps, l'expérimentation forestière sur la valorisation du bois, le peuplement et déjà l'adaptation aux variétés sous nos climats.
Qui était d'ailleurs ce Louis Gervais de Lamarre.
C'était un botaniste en fait, un botaniste en 1833. Et en 1833, une école botanique a été créée par François-André Michaud, qui lui a continué l'introduction d'espèces botaniques et là pour créer un arboretum qui a une vocation de plus de musée à ciel ouvert, avec des arbres plantés de manière isolée pour faire de l'ornement, en fait. Par la suite, on a Monsieur Pépin, au 19e siècle, qui a lui introduit principalement des variétés asiatiques. Et plus récemment, on a Maurice de Villemorin, qui lui a introduit, par exemple, un des arbres remarquables de l'arboretum, le duo de hêtre tortillard, un chêne liège, par exemple, donc qu'on trouve plus dans le sud communément. Et dans les années 70, on a 2 botanistes qui sont revenus sur l'expérimentation forestière et la plantation d'arbres en peuplement, toujours pareil pour la filière bois. Donc là, il s'agissait de botanistes, Monsieur Boulard et Monsieur Aubert.
Donc en fait, si je comprends bien, il y a un effet de mode aussi chez les arboretums. Et maintenant, comment en fait, est-ce que vous replantez tout le temps? Enfin, comment c'est suivi en fait toutes ces plantations?
Alors effectivement, il y a un suivi un peu spécifique pour cet arboretum. Ça implique déjà la conservation des collections, hein. C'est le rôle de l'arboretum. On assure aussi l'identification précise des variétés. On peut s'apercevoir qu'au cours de certaines visites de passionnés, de botanistes, d'experts, qu'on a quelques petits couacs dans notre étiquetage, soit par le biais d'une évolution des variétés, soit par une méconnaissance à la plantation. Notre rôle aussi, c'est de promouvoir la biodiversité, hein, c'est vraiment dans l'air du temps, dans la gestion de nos espaces et l'intérêt botanique. Et on a surtout un rôle de veille sanitaire sur tous nos sujets, et pas que sur les arbres remarquables, hein, sur l'ensemble des arbres, même y compris dans la partie forestière.
Vous venez de dire qu'il y a des mises à jour en fonction de l'évolution des espèces, c'est-à-dire ?
Mais en fait, il y a beaucoup dans la même famille, il y a beaucoup de cultivars différents, et par exemple sur les chênes, c'est des petites subtilités qui ne sont pas forcément visibles à la plantation puisque l'arbre est jeune et on le découvre lors de sa maturité en fait. Et là, on a des jeunes experts, on a un jeune passionné qui cultive les chênes, qui vient régulièrement à nos fêtes automnales et qui nous dit « Ah, là, je suis pas certain que ce soit... » Donc ça laisse un petit peu champ libre à toute chose.
Et vous plantez à nouveau des arbres ou enfin comment ça se passe ?
Alors on plante un peu plus régulièrement depuis 2 ans, depuis 2 saisons. On a mis en place au sein du département un comité scientifique avec la direction de l'environnement et on essaye d'introduire quelques nouvelles espèces en essayant de conserver les espaces. Asiatique, sur les origines, et on réintroduit aussi des espèces qui sont malheureusement mortes dans l'arboretum.
Quand vous parlez de musées à ciel ouvert, est-ce qu'il y a, comme dans les musées fermés, ces échanges de collections ou ces interactions avec d'autres arboretums ? Alors j'imagine qu'on va pas prêter un chêne pour la saison, ça j'imagine. Mais est-ce qu'il y a des interactions avec d'autres arboretums, des reproductions d'espèces spécifiques qu'on vient passer ? Parce que c'est ça aussi le propre de la nature, c'est que on peut aussi en faire peut-être pas des boutures, mais des semis ou que sais-je. Là, je vois avec vos yeux que vous êtes en train de dire, je dis n'importe quoi sur les termes techniques, mais éclairez-nous.
Non, pas du tout. Oui, alors il existe un réseau d'arboretum pour de l'échange, beaucoup de conférences. Et après, principalement, pour l'instant, sur les prochains projets de plantation, on cherche encore un petit peu notre cahier des charges, on regarde un petit peu ce qui se fait et surtout, on est sur l'adaptation au changement climatique. Donc, on a un rôle d'observation sur le changement climatique par rapport à la végétation. Donc, on va faire des tests en fait, mais c'est pas encore totalement défini sur les futurs projets.
Quand on parle de différentes espèces d'arbres notamment, est-ce que du coup, à Harcourt, on a des insectes spécifiques aussi qui arrivent ? Parce qu'on sait que l'écosystème est lié entre l'animal, le végétal et notamment les insectes. Est-ce qu'il y a aussi des colonies d'insectes spécifiques par rapport aux essences spécifiques qui sont à Harcourt ?
Alors, pas spécialement, on a une faune vraiment adaptée au climat. Bon là, on n'est pas sans savoir que le frelon asiatique est aussi présent dans l'arboretum. Et alors, avec une petite subtilité, c'est que les nids sont de plus en plus hauts. On a des arbres aujourd'hui qui culminent à presque 50 mètres de haut. Je parle des pins de Douglas. Et on a du mal un petit peu à les maîtriser. Donc voilà.
Et au niveau de l'entretien de l'arboretum, est-ce que c'est un travail différent que d'un jardin classique ou ça demande il y a des contraintes particulières ?
Alors non, pas spécialement. Donc nous, on applique une gestion différenciée de nos espaces, c'est-à-dire qu'on va adapter notre entretien à l'usage de l'endroit que l'on veut en faire, donc pour l'accueil du public, pour des zones de libre de biodiversité, des zones de compensation aussi, donc avec moins de tonte, on laisse volontairement la flore s'épanouir toute seule.
Et vous êtes combien de personnes en tout qui travaillent combien de personnes il y a qui travaillent pour l'arboretum?
Donc on a deux jardiniers permanents et depuis l'année dernière on accueille un jeune en contrat d'apprentissage sur les métiers du paysage qui est à l'Hortipole d'Évreux.
D'accord. Pour échanger avec le grand public, il y a régulièrement des événements. Moi, j'ai en tête un événement que j'apprécie particulièrement, qui est merveilleux en fin d'année, qui met magnifiquement bien en valeur aussi l'arboretum, malgré le fait que ce soit de nuit, hein, les visites lumineuses. Il y a aussi des rencontres durant l'année avec un salon des plantes, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Les automnales.
Les automnales, voilà, merci. Il y a tous ces moments aussi festifs qui mettent en valeur aussi le cadre et qui le renvoient aussi aux événements. Et oui. Ça, c'est important pour le grand public, j'imagine.
Oui, 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 c'est vrai que ce sont des manifestations qui ponctuent la saison culturelle du domaine, avec de plus en plus d'engouement, donc à notre grand bonheur. Et c'est vrai que ça permet je reprends merveilleux, ça permet de découvrir les arbres autrement, d'éveiller d'autres sens, surtout comme on le disait la nuit, avec les effets lumineux. On a eu la chance sur la saison précédente où on avait un peu de givre sur les arbres avec la lumière. Enfin, c'était juste magnifique. Et ça permet de toucher un public que l'on n'a pas vu déambuler sur des jours d'ouverture traditionnels, en fait.
Parce qu'en fait, il y a cet aspect scientifique que vous évoquiez, il y a l'aspect culturel, l'aspect naturel aussi, mais aussi cet aspect poétique, très clairement, quand on se promène dans un arboretum. Alors, que ce soit à l'occasion de Merveilleux, où ça c'est évident, hein, qu'il y a tout un espace poétique, mais il y a quand même cette poésie, même au quotidien, quasiment une espèce de calme dans la déambulation dans l'arboretum. J'imagine que comme cadre de travail, ça doit être sympa quand même.
C'est plutôt agréable, en toute saison, et surtout quand on arrive les premiers le matin. J'ai le privilège d'ouvrir la grille et de me promener seul dans l'arboretum. C'est vrai qu'il y a pire.
Ah oui, non, mais ça, enfin, j'imagine assez facilement, quoi, ouvrir le domaine et entrer dedans avec cet espace qui est intimidant quand même, mine de rien, parce que ce sont quand même des arbres majestueux, même si on n'est pas un spécialiste, et pourtant vous l'êtes, hein, mais même quand on n'est pas spécialiste, on est déjà impressionné. J'imagine qu'en tant que spécialiste, il y a quelque chose qui de l'ordre du viscéral, enfin un truc qu'on ressent presque.
C'est hors du temps. En fait, hors du temps, moi ça fait 3 ans que je travaille pour le département et notamment au domaine d'Harcourt, j'en découvre encore, je dirais pas tous les jours mais presque, voilà, que ce soit en termes de faune aussi, on a une faune assez variée, et puis au niveau de la flore, voilà, en ce moment on est sur la strate herbacée, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans les herbages avec les orchidées sauvages, les boutons d'or, enfin voilà, tout ce qui est commun dans notre nature, et ben on arrive à le retrouver dans tout cet espace de l'arboretum.
Puis le tableau, il change tous les jours.
Et exactement.
Du coup, vous avez du public qui vient toutes les saisons pour voir l'arboretum?
Oui, alors l'arboretum est ouvert à partir du printemps et ferme ses portes à l'automne. Et on a en moyenne du monde presque tous les jours, et notamment aujourd'hui, on a 3 groupes de visiteurs.
Ben, merci beaucoup Julien Le Breton pour toutes ces explications sur l'arboretum d'Harcourt, qui est visible donc tous les jours de la semaine.
Sauf le mardi en ce moment, et à partir du 15 juin, tous les jours de la semaine, en continu de 10h à 18h30.
Merci beaucoup.
Merci.
Nous retournons du côté de la valise à musique de Marie. Quel est le prochain titre?
Alors, le prochain titre, c'est Disquette, d'un artiste qui s'appelle Jean, qui se produira aussi à Ça sonne à la porte le samedi à 18h15.
Non, je vais pas m'y risquer. C'est mort, j'arrêterai même si je sais qu'il me reste quelques marches. Je sortirai jamais mes disquettes. C'est moche, en plus j'ai pas besoin de ça. Oh non, je vais sûrement pas m'y risquer. C'est mort, j'arrêterai même si je sais qu'il me reste quelques marches. J'arrêterai sûrement jamais le whisky. C'est pas comme si c'était grave, ma chérie, je préfère qu'on en discute. T'as mal à la tête, moi aussi ce sera jamais une raison valable. C'est pas le bon timing, ça le sera jamais, ça y est, c'est bon, voilà. On partira pas en voyage, on n'a même pas besoin d'être sûr. Je regarderai jamais profond dans tes yeux avec les miens plein d'excuses. Tu me diras jamais que tu m'aimes plus, que je te fais du mal, que t'es peut-être mieux sans moi. Tu me diras jamais de choisir entre nos deux versions. Ce sera jamais le meilleur moment pour le faire, et y'aura jamais de pire. Oh non, je vais sûrement pas m'y risquer. C'est mort, j'arrêterai même si je sais qu'il me reste quelques marches. Pourrais jamais lui dire mes disquettes. C'est moche, en plus j'ai pas besoin de ça. Oh non, je vais sûrement pas m'y risquer. C'est mort, j'arrêterai même si je sais qu'il me reste quelques marches. J'arrêterai sûrement jamais le whisky. C'est pas comme si c'était grave, ma chérie, je préférais qu'on discute. Et toi, je sais que tu te sens mal quand tu regardes les étoiles. Arrête-toi clairement, y a pas que ton appart qu'il faut que tu nettoies. Il est tard, arrête de chercher de quoi changer ton état. T'étais déjà bourré mais t'es quand même parti chercher des tasses. Le réveil sonne, c'est l'heure de se lever pour aller fumer des joints. J'ai jamais signé de papier où je disais que j'assumais mes choix. Demain c'est pareil, je suis préparé. Si je dois faire le méchant, changerai pas d'avis, je suis désolé. Tu peux fermer les jambes. Oh non, je vais sûrement pas m'y risquer. C'est mort, j'arrêterai même si je sais qu'il me reste quelques marches. Pourrais jamais lui dire mes disquettes. C'est moche, en plus j'ai pas besoin de ça. Oh non, je vais sûrement pas m'y risquer. C'est mort, j'arrêterai même si je sais qu'il me reste quelques marches. J'arrêterai sûrement jamais le whisky. C'est pas comme si c'était grave, ma chérie, je préférais qu'on dise.
Voilà, c'était Jean, un jeune artiste rouennais qui sera donc présent à Ça sonne à la porte à 18h15 le samedi. Et donc on enchaîne avec notre dernier sujet. On va parler du MUMO. Alors le MUMO, qu'est-ce que c'est ? C'est à la base, en fait c'est un musée mobile. C'est une idée d'Ingrid Brochard, qui est une femme d'affaires passionnée d'art et qui a voulu rendre l'art contemporain accessible à tous. Aux enfants déjà, enfin au début, et puis dans un premier temps, pardon, et puis ensuite à tous ceux qui sont géographiquement ou pour d'autres raisons éloignés d'une offre culturelle. Donc la première version a pris la route en 2011 sous la forme d'un container. En 2015, le MUMO est lauréat d'un concours qui s'appelle La France s'engage et qui va désormais sillonner les régions avec des œuvres des 25 FRAC, qui sont les fonds régionaux d'art contemporain. Et puis en 2022, c'est un troisième camion musique qui s'appelle le MUMO Centre Pompidou qui va naître de la collaboration donc du MUMO et du Centre Pompidou, qui est la plus grande institution d'art contemporain d'Europe. Voilà, donc ce camion, c'est une œuvre d'art en soi. Et en ce moment, il déambule sur notre territoire. Donc nous, avec Florence, nous nous sommes rendus au collège du Neubourg pour voir les œuvres du collège Pompidou et ce qu'ils en ont fait avec les classes du collège du Neubourg.
Faites le tour, il n'y a pas de sens de visite, donc vous pouvez vraiment vous étaler, vous pouvez faire le tour où vous voulez. Puis une fois que vous êtes prêt, vous pouvez vous placer devant celle qui vous plaît le plus ou celle qui vous intrigue le plus. Alors, mettez-vous en face. On va regarder parce qu'on ne va pas discuter d'une œuvre sans la regarder quand même, ça serait dommage. Alors c'est qui a choisi celle-ci? Alors pourquoi vous l'avez choisie? Qu'est-ce qui vous attire dans cette œuvre?
La forme dont est disposé le papier.
La forme dont est disposé le papier, comment il est disposé ce papier du coup?
D'une manière régulière.
Ah oui, il est très... Alors c'est vrai qu'il a collé de manière très régulière, comme si ça formait un motif. C'est intéressant. Quoi d'autre?
Est-ce qu'il y a un effet de 3D ou... Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
Mais si, tu peux le dire ça comme ça, tout à fait. C'est totalement juste. Il y a une petite silhouette qui ressort comme ça en trois dimensions. Le titre de cette œuvre, ça s'appelle « À Paris, un jeune homme essaye sans cesse d'attraper un grain de l'univers ». Ça vous inspire quoi, ce titre ?
C'est poétique.
C'est poétique, exactement. C'est poétique. Et ça, c'est très important.
parce que l'artiste qui a fait cette œuvre, il s'appelle Giry Collard. C'est un artiste du milieu du XXe siècle. Et en fait, Giry Collard, c'était aussi un poète.
Moi, je m'appelle Armelle et je suis médiatrice pour le MUMO, donc le Musée Mobile Centre Pompidou. Nous, c'est de faire le pont et de faire le lien entre les œuvres d'art et le public afin d'apporter des pistes de compréhension et d'interprétation sur les œuvres et leur expliquer en fait les œuvres d'art et l'exposition et surtout les initier en fait à l'art moderne et l'art contemporain. Alors avec le MUMO, on va avoir principalement des publics scolaires, beaucoup. On accueille différentes classes. Alors ça va aller de la grande section de maternelle jusqu'au lycée, voire même au BTS, puisque ici on va accueillir des BTS. Et puis on va aussi avoir toutes sortes de publics, donc des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, plus bien sûr des portes ouvertes qui sont ouvertes à tout le monde en fait, où on va montrer les créations qu'on a pu faire avec les différents groupes scolaires qu'on a accueillis et aussi du coup ouvrir et donner des explications au tout public et aux curieux qui veulent visiter le MUMO. On n'est pas là pour faire des conférences où on fait un monologue long sur l'artiste, l'histoire de l'art, etc. Nous, on est là vraiment pour les initier et puis pour partir de leurs ressentis et leurs sensibles, ce qu'ils comprennent de l'œuvre, ce qu'ils y voient, ce qu'ils ressentent. Et on va tirer le fil à partir de là et puis ajouter des explications par-ci, par-là sur ce qu'ils ont compris. Mais c'est une idée plus de dire que l'art contemporain, qui nous paraît éloigné, assez élitiste, en fait, n'est pas si éloigné de nos propres ressentis. Et les interrogations des artistes ne sont pas éloignées de ce que nous, on peut y voir. Et donc, du coup, de leur montrer qu'ils ont tout à fait les clés de compréhension déjà sur ces œuvres et donc de tirer comme ça le fil pour eux. Tac. Si je vous montre ça, à votre avis, ça fait référence à quelle œuvre ?
La première,
c'était qui, comment il s'appelait? Giry Collard, il était tchèque. Je vais vous distribuer des feuilles avec une série de mots dessus. Vous allez prendre le temps un petit peu de les lire. Vous allez voir, il y a différents champs lexicaux, donc vous allez choisir celui que vous préférez. Vous avez, par exemple, là, vous avez le cosmos. Hop, vous avez marcher, courir, sauter, les émotions. Le rouge, le bleu. Et donc, vous essayez vraiment de recouvrir les mots qui vous plaisent le plus. Et ensuite, vous faites le contour de votre main.
Moi, c'est Lia, j'ai 15 ans.
Et moi, je m'appelle Ethan et j'ai 14 ans.
D'accord. Est-ce que vous avez déjà visité un musée hors le MUMO?
Non.
Non. Moi, je fais une œuvre sur le sport. Donc, l'œuvre s'appelle Ne jamais rien lâcher, toujours persévérer. C'est une œuvre où... ces doigts-là, ils représentent le fait de la chance, de croiser les doigts avant une épreuve ou une compétition, de triompher avec le podium et la coupe, et plein de mots qui rapportent au sport sur le respect, le fair play et la détermination.
Alors, je suis professeure d'art plastique au collège Pierre Corneille du Neubourg.
Est-ce que vous avez eu, alors comme vous êtes venu hier à l'issue de la visite, des avis et qu'est-ce qu'il en est ressorti de la part de vos élèves?
Alors ce matin déjà, des élèves ravis. Madame, c'est la meilleure sortie qu'on ait fait. Et l'intervenante aussi, elle dit ah, c'est mignon. Enfin voilà, c'était vraiment très plaisant. Je les ai raccompagnés, ils ont récupéré leur sac et ils étaient vraiment ravis. Alors non seulement il y a la partie découverte des œuvres et aussi le côté atelier pratique plastique qui les a vraiment transportés, clairement, hein, pour certains. Ça fait vraiment plaisir. Faire venir les œuvres aux élèves aussi. Je trouve ça très bien. Parce que c'est pas facile non plus à l'heure actuelle de pouvoir aller à Paris, Pompidou, le trajet, le coût aussi de tout ça. Et les ateliers pratiques plastiques. Une liberté. Voilà, je les remercie, c'est vraiment bien.
Voilà, donc c'était la rencontre du MUMO Centre Pompidou au Collège du Neubourg. Donc on accueille Raphaël Jarry qui est chargé de projet art visuel au département. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre?
Oui, bah, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement le travail des médiatrices culturelles, c'est le cœur du MUMO. Hein. En fait, le camion s'installe soit dans le milieu rural, sur une place, sur un parking, ou au cœur des villages ou également dans les espaces périurbains. Et les médiatrices, voilà, le camion s'ouvre et là, les médiatrices après font tout leur travail. tout le travail en fait de transmission entre ces œuvres d'art exceptionnelles qu'on a la chance d'avoir sur nos territoires et puis surtout effectivement les enfants, mais aussi sur certains temps de la semaine des portes ouvertes auprès de tous les publics. Et ce que je note quand même, c'est vraiment cette relation au sensible, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir de la connaissance pour être touché ou non par une œuvre d'art, d'art contemporain, mais c'est vraiment accessible à nous tous. On ne l'a pas là entendu, mais c'est vrai qu'elle pose souvent la question de « ok, on aime, ok, on n'aime pas ». Vous avez le droit d'aimer ou de ne pas aimer les œuvres, et c'est souvent ce que l'art contemporain crée chez nous. Donc, voilà.
C'est peut-être justement tout le sens de l'art au bout d'un moment, de ne pas avoir de prérequis pour pouvoir le recevoir. Et puis, ne pas l'aimer, c'est aussi susciter une réaction, quoi. Enfin, une œuvre qu'on n'aime pas, qui nous a heurté, peut-être que c'est déjà quelque chose qui s'est passé.
Tout à fait. Et de pouvoir aussi en parler, c'est aussi le rôle des médiatrices culturelles. Et les enfants, en fait, quand ils sont dans ces ateliers, dans ces médiations et ateliers, ils ont là la liberté de s'exprimer. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, susciter la curiosité et exprimer ses émotions.
Il paraît que là, on n'est pas toujours obligé de le comprendre.
Oui. Exactement. Mais tout à fait. C'est là tout l'intérêt de ces collections. Et des fois, c'est un interdit presque, des fois, d'aller au musée parce qu'on ne se sent pas forcément à l'aise. C'est pas nos codes culturels. On n'a pas les connaissances de base. Or, en fait, non. C'est exactement ce que vous dites là.
Il y a déjà eu quelques villes qui ont accueilli le musée mobile. Quels sont les retours que vous avez eus des villes qui en ont bénéficié?
Alors, c'est à la fois soit des villes, soit des intercos, et effectivement, ils sont ravis. Déjà, ils sont ravis quand le projet leur a été présenté, très, très heureux de l'accueillir, et des retours, alors à la fois des professionnels qui l'accueillent, mais aussi des publics extraordinaires. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec les ateliers scolaires, les enfants reviennent aussi sur les portes ouvertes avec les parents. Je voyais des enfants qui traînaient, viens voir le MUMO. En plus, les fenêtres sont assez courtes, hein, des fois, c'est une matinée, un après-midi, et donc, ça fonctionne très, très bien. Voilà.
Donc là, le MUMO en ce moment, ce sont deux camions qui tournent sur le territoire pendant 10 semaines. Est-ce que vous pouvez nous parler de la spécificité de chaque camion?
Tout à fait. En fait, on a la particularité d'avoir une tournée de 10 semaines dans l'heure en 2024. C'est énorme pour le MUMO. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, oui, il y a deux camions. Il y a un camion avec les œuvres du Centre Pompidou et un camion avec des œuvres du FRAC, donc Fonds Régional d'Art Contemporain. Là, l'exposition qui tourne, elle est faite par le FRAC Île-de-France, avec aussi le FRAC Normandie qui a participé, et les Hauts-de-France. Et ils n'ont pas la même configuration. Ils s'ouvrent dans tous les cas, tous les deux, sur les côtés, pour créer vraiment des grands espaces une fois que le camion arrive. Mais c'est vrai que ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils tournent en permanence tout le temps. C'est-à-dire que toutes les semaines, pendant qu'on parle, alors nous, on est là pendant 10 semaines, pas consécutives, mais c'était entre avril, et là, ça va continuer jusqu'à septembre, mais ils sont en permanence sur les territoires auprès des publics. C'est un travail énorme que font les professionnels du MUMO. Là, effectivement, ce qui est particulier, c'est on a fait notamment sur le camion du Centre Pompidou une grande loggia qui était très intéressante parce que les œuvres des élèves étaient exposées à l'extérieur, notamment en fin de semaine. Et puis là, avec le MUMO du FRAC aussi qui va démarrer à partir de fin juin à Conches, c'est vraiment toute un design avec du bois, enfin vraiment quelque chose de très chaleureux à l'intérieur qu'on vous invite à venir découvrir.
Les prochaines dates, du coup, du MUMO, c'est à Conches, c'est ça, c'est les premières?
Alors non, il y en aura avant. En fait, il y a le camion du Centre Pompidou a démarré la tournée en avril, donc à Bourracha, à Renaubourg et aux Andelys. Là, il revient le 10 juin à Verneuil-sur-Avre. Il ira ensuite la semaine d'après à Beuzeville. Et enfin, donc là, sera la fin de la tournée du camion du Centre Pompidou. Et c'est le camion du FRAC qui démarre à Conches-en-Ouche fin juin, la dernière semaine de juin.
Est-ce qu'on peut trouver ces informations quelque part pour les gens qui souhaiteraient...
Tout à fait, sur le site du département de l'Eure et puis après au niveau local. Parce que l'idée, c'était vraiment de pouvoir mailler le territoire. On a bien travaillé entre les partenaires, tous les partenaires, que ce soit aussi avec la DRAC, l'Éducation nationale. Et on a pu aller effectivement de Beuzeville à Verneuil. On va finir aussi la tournée à Étrépagny. On va passer par Broglie. Cet été à Évreux, à Val-de-Reuil. Voilà, donc on est très, très, très heureux.
Et bien, c'est un gros succès. Merci beaucoup, Raphaël.
Et nous passons à l'agenda non exhaustif qui a été repéré par Marie et Florence. Qu'allons-nous retrouver qu'est-ce qu'il y a dans vos agendas en fait?
Dans nos
tout
agendas.
Simplement, qu'y a-t-il dans vos agendas?
Alors pour rester dans les musiques actuelles, il y a un festival qui s'appelle le CAF Fest qui aura lieu le 21, 22 et 23 juin au château de Gisors. Donc la première journée, comme c'est la fête de la musique, c'est accessible gratuitement. Il y a un camping et vous aurez plus d'informations sur le site. C'est le CAF Fest.
Le 14 et 15 juin, c'est les journées européennes de l'archéologie, donc on va à Gisacum pour tester l'expo temporaire qui est sur le sport, bien sûr, cette année qui est avec les JO. Et donc il y aura aussi des spectacles et de l'archéologie expérimentale.
Ensuite, on a une exposition qui est portée par le CAUE, qui est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, en ce moment même au département, et ce jusqu'au 14 juin dans le hall, qui a été faite par des élèves de 5e du collège Pablo Picasso de Gisors avec l'intervention artistique de Dominique Hermier.
Le 12 juin, il y a toujours, on revient à Harcourt pour l'arboretum, mais aussi pour faire un papotage au jardin où des gens sur inscription peuvent créer une œuvre artistique avec du végétal.
Alors, toujours dans les musiques, on a la 3e édition du festival CODA au Conservatoire de Pont-Audemer. C'est gratuit aussi, ce sera le 1er juin de 10h à 23h et c'est un festival de musiques actuelles amateurs. Et il y aura des intervenants sur le handicap.
De mon côté, je reste toujours au jardin avec rendez-vous au jardin le 1er et 2 juin. Et il y a 70 jardins privés qui sont ouverts à tout le monde, donc profitez-en.
Voilà, et allez, n'hésitez pas à aller sur le site du département. Il y a des festivals photos, notamment le festival photo de Martigny, dans le Fixin Normand, du 22 juin au 1er septembre. La 11e édition du festival Les Filmeurs, qui aura lieu du 25 juin au 30 juin à Conteville. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur l'agenda du département.
Et la prochaine émission qui aura lieu le 28 juin.
Et pouvez noter dès maintenant, c'est le 4e vendredi de chaque mois. Vous nous retrouverez à midi et demi.
Tout à fait. Bonne journée.
Bonne journée.